La France est affectée d'une peste bien plus désastreuse. Le sol y est entièrement couvert et comme assiégé par des troupes innombrables, enrégimentées et payées par l'État. Et cela en temps de paix, si l'on peut donner le nom de paix à des trêves de moment. Ce déplorable système est justifié par la même raison qui vous porte à entretenir des myriades de valets fainéants. Il a semblé à ces politiques peureuses et chagrins que la sûreté de l'État exigeait une armée nombreuse, forte, constamment sous les armes et composée de vétérans. Ils n'osent se fier aux conscrits. On dirait même qu'ils font la guerre pour apprendre l'exercice aux soldats, et afin, comme a écrit Salluste, que dans cette grande boucherie humaine, son cœur ou sa main ne s'engourdisse pas au repos. La France apprend à ses dépens le danger de nourrir cette espèce d'animaux carnassiers. Cependant, elle n'avait qu'à jeter les yeux sur les Romains, les Carthaginois et une foule d'anciens peuples. Quels fruits ont-ils retirés de ces armées immenses et toujours debout? Le ravage de leurs terres, la destruction de leurs cités, la ruine de leur empire. Encore s'il avait servi aux Français d'exercer, pour ainsi dire, leurs soldats dès le berceau. Mais les vétérans de France ont eu affaire avec les conscrits d'Angleterre, et je ne sais s'ils peuvent se vanter d'avoir eu souvent le dessus. Je me tais sur ce chapitre. J'aurai l'air de faire la cour à ceux qui m'écoutent. Revenons à nos valets soldats. Ils ont, dites-vous, plus de courage et d'élévation que les artisans et les laboureurs. Je ne crois pas, moi, qu'un valet fasse grand-peur ni aux uns ni aux autres, excepté ceux dont la faiblesse du corps paralyse la vigueur de l'âme, et dont l'énergie est brisée par la misère. Les valets, ajoutez-vous, sont plus grands et plus robustes. Mais n'est-il pas dommage de voir des hommes forts et beaux, car les nobles choisissent les victimes de leur corruption, de les voir se consumer dans l'inaction, s'amollir dans les occupations de femmes, tandis qu'on pourrait les rendre laborieuses et utiles en leur donnant un métier honorable et en les habituant à vivre du travail de leurs mains. De quelque manière que j'envisage la question, cette foule immense de gens oisifs me paraît inutile au pays, même dans l'hypothèse d'une guerre que vous pourrez au reste éviter toutes les fois que vous le voudrez. Elle est en outre le fléau de la paix. Et la paix vaut bien qu'on s'occupe d'elle autant que de la guerre. La noblesse et la valetaille ne sont pas les seules causes des brigandages qui vous désolent. Il en est une autre exclusivement particulière à votre île. Et quelle est-elle? Dit le cardinal. Les troupeaux innombrables de moutons qui couvrent aujourd'hui toute l'Angleterre. Ces bêtes si douces, si sobres partout ailleurs, sont chez vous tellement voraces et féroces qu'elles mangent même les hommes, et dépeuplent les campagnes, les maisons et les villages. En effet, sur tous les points du royaume, où l'on recueille la laine la plus fine et la plus précieuse, accourent pour se disputer le terrain les nobles, les riches et même de très saints abbés. Ces pauvres gens n'ont pas assez de leurs rentes, de leurs bénéfices, des revenus de leurs terres. Ils ne sont pas contents de vivre au sein de l'oisiveté et des plaisirs, à charge publique et sans profit pour l'État. Ils enlèvent de vastes terrains à la culture, les convertissent en pâturage, abattent les maisons, les villages, et n'y laissent que le temple pour servir d'étable à leurs moutons. Ils changent en désert les lieux les plus habités et les mieux cultivés. Ils craignent sans doute qu'il n'y ait pas assez de parcs et de forêts, et que le sol ne manque aux animaux sauvages. Ainsi, un avare affamé enferme des milliers d'arpents dans un même enclos. Et d'honnêtes cultivateurs sont chassés de leurs maisons, les uns par la fraude, les autres par la violence, les plus heureux par une suite de vexations et de tracasseries qui les forcent à vendre leurs propriétés. Et ces familles, plus nombreuses que riches, car l'agriculture a besoin de beaucoup de bras, émigrent à travers les campagnes, maris et femmes, veuves et orphelins, pères et mères avec de petits enfants. Les malheureux fuient en pleurant le toit qui les a vus naître, le sol qui les a nourris, et ils ne trouvent pas où se réfugier. Alors ils vendent à vil prix ce qu'ils ont pu apporter de leurs effets, marchandises dont la valeur est déjà bien peu de choses. Cette faible ressource épuisée, que leur reste-t-il? Le vol, et puis la pendaison dans les formes. Aiment-ils mieux traîner leur misère en mendiant? on ne tarde pas à les jeter en prison comme vagabonds et gens sans aveu. Cependant, quel est leur crime? C'est de ne trouver personne qui veuille accepter leurs services, quoiqu'ils les offrent avec le plus vif empressement. Et d'ailleurs, comment les employer? Ils ne savent que travailler à la terre. Il n'y a donc rien à faire pour eux, là où il n'y a plus ni semaille ni moisson. Un seul pâtre ou vacher suffit maintenant à faire brouter cette terre, dont la culture exigeait autrefois des centaines de bras. Un autre effet de ce fatal système, c'est une grande cherté des vivres sur plusieurs points. Mais ce n'est pas tout. Depuis la multiplication des pâturages, une affreuse épizootie est venue tuer une immense quantité de moutons. Il semble que Dieu voulait punir l'avarice insatiable de vos accapareurs par cette hideuse mortalité, qu'il eût plus justement lancée sur leur tête. Alors le prix des laines est monté si haut que les plus pauvres des ouvriers drapiers ne peuvent plus maintenant en acheter. Et voilà encore une foule de gens sans ouvrage. Il est vrai que le nombre des moutons s'accroît rapidement tous les jours, mais le prix n'en a pas baissé pour cela. Parce que si le commerce des laines n'est pas un monopole légal, il est en réalité concentré dans les mains de quelques riches accapareurs que rien ne presse de vendre et qui ne vendent qu'à de gros bénéfices. Les autres espèces de bétail sont devenues d'une cherté proportionnelle par la même cause et par une cause plus puissante encore, car la propagation de ces animaux est complètement négligée depuis l'abolition des métairies et la ruine de l'agriculture. Vos grands seigneurs ne soignent pas l'élevage du gros bétail comme celui de leurs moutons. Ils vont acheter au loin des bêtes maigres, presque pour rien, les engraissent dans leurs prés et les revendent hors de prix. J'ai bien peur que l'Angleterre n'ait pas ressenti tous les effets de ces déplorables abus. Jusqu'à présent, les engraisseurs de bêtes n'ont causé la cherté que dans les lieux où ils vendent. Mais à force d'enlever le bétail là où ils l'achètent, sans lui donner le temps de multiplier, le nombre en diminuera insensiblement, et le pays finira par tomber dans une horrible disette. Ainsi, ce qui devait faire la richesse de votre île en fera la misère, par l'avarice d'une poignée de misérables. Le malaise général oblige tout le monde à restreindre sa dépense et son domestique. Et ceux qu'on met à la porte, où vont-ils? Mendier ou voler, s'ils en ont le cœur? À ces causes de misère vient se joindre le luxe et ses folles dépenses. Valets, ouvriers, paysans, toutes les classes de la société déploient un luxe inouï de vêtements et de nourriture. Parlerai-je des lieux de prostitution, des honteux repères d'ivrognerie et de débauche, de ces infâmes tripots, de tous ces jeux, cartes, dés, paumes, palais, qui engloutissent l'argent de leurs habitués et les conduisent droit au vol pour réparer leurs pertes? Arrachez de votre île ces pestes publiques, ces germes de crimes et de misère. Décrétez que vos nobles démolisseurs reconstruiront les métairies et les bourgs qu'ils ont renversés, ou céderont le terrain à ceux qui veulent rebâtir sur leurs ruines. Mettez un frein à l'avare égoïsme des riches. Ôtez-leur le droit d'accaparement et de monopole. Qu'il n'y ait plus oisif pour vous. Donnez à l'agriculture un large développement. Créez des manufactures de laine et d'autres branches d'industrie, où viennent s'occuper utilement cette foule d'hommes dont la misère a fait jusqu'à présent des voleurs, des vagabonds ou des valets, ce qui est à peu près la même chose. Si vous ne portez pas remède aux maux que je vous signale, ne me vantez pas votre justice. C'est un mensonge féroce et stupide. Vous abandonnez des millions d'enfants au ravage d'une éducation vicieuse et immorale. La corruption flétrit sous vos yeux ces jeunes plantes qui pouvaient fleurir pour la vertu. Et vous les frappez de mort quand, devenus des hommes, ils commettent les crimes qui germaient dès le berceau dans leurs âmes. Que faites-vous donc, des voleurs, pour avoir le plaisir de les pendre? Tandis que je parlais ainsi, mon adversaire se préparait à la réplique. Il se proposait de suivre la marche solennelle de ces disputeurs catégoriques qui répètent plutôt qu'ils ne répondent, et placent tout l'honneur d'une discussion dans les efforts de mémoire. « Vous avez très bien parlé, me dit-il, vous surtout qui êtes étranger, et qui ne pouvez connaître ces matières que par oui-dire. je vais vous donner de meilleurs renseignements. Voici l'ordre de mon discours. D'abord, je récapitulerai tout ce que vous avez dit. Ensuite, je relèverai les erreurs que vous a imposées l'ignorance des faits. Enfin, je réfuterai vos arguments, je les pulvériserai. Je commence donc comme je l'ai promis. Vous avez, si je ne me trompe, énuméré 4. Je vous arrête là, interrompit brusquement le cardinal. L'exorde me fait craindre que le discours ne soit un peu long. Nous vous épargnerons aujourd'hui cette fatigue. Mais je ne vous tiens pas quitte de votre harangue. Gardez-nous là tout entière pour la prochaine entrevue que vous aurez avec votre parti adverse. Je souhaite que le jour de demain vous ramène ici tous les deux, à moins que vous ou Raphaël ne soyez dans l'impossibilité de venir. En attendant, mon cher Raphaël, vous me feriez plaisir de m'apprendre pourquoi le vol ne mérite pas la mort et quelle autre peine vous y substitueriez qui garantit plus puissamment la sûreté publique. Car vous ne pensez pas que l'on doive tolérer le vol. Et si la potence n'est pas aujourd'hui une barrière pour le brigandage, quelle terreur imprimerez-vous aux scélérats quand ils auront la certitude de ne pas perdre la vie? Quelle sanction assez forte donnerez-vous à la loi? Une peine plus douce ne serait-elle pas une prime d'encouragement au crime? Ma conviction intime, très éminent père, est qu'il y a de l'injustice à tuer un homme pour avoir pris de l'argent, puisque la société humaine ne peut pas être organisée de manière à garantir à chacun une égale portion de bien. On m'objectera sans doute que la société, en frappant de mort, venge la justice et les lois, et ne punit pas seulement une misérable soustraction d'argent. Je répondrai par cet axiome « Summum ius, summa injuria ». L'extrême droit est une extrême injustice. La volonté du législateur n'est pas tellement infaillible et absolue qu'il faille tirer le glaive pour la moindre infraction à ses décrets. La loi n'est pas tellement rigide et stoïque qu'elle place au même niveau tous les délits et tous les crimes et n'établisse aucune différence entre tuer un homme et le voler. Car si l'équité n'est pas un vain mot, entre ces deux actions il y a un abîme. Et quoi ? Dieu a défendu le meurtre. Et nous, nous tuons si facilement pour un vol de quelques pièces de monnaie. Quelqu'un dira peut-être, Dieu, par ce commandement, a ôté la puissance de mort à l'homme privé, et non au magistrat qui condamne en appliquant les lois de la société. Mais s'il en est ainsi, qui empêche les hommes de faire d'autres lois également contraires aux préceptes divins, et de légaliser le viol, l'adultère et le parjure? Comment ? Dieu nous a défendu d'ôter la vie non seulement à notre prochain, mais encore à nous-mêmes, et nous pourrions légitimement convenir de nous entr'égorger en vertu de quelques sentences juridiques, et cette convention atroce mettrait juges et bourreaux au-dessus de la loi divine, leur donnant le droit d'envoyer à la mort ceux que le code pénal condamne à périr. Il suivrait de là cette conséquence monstrueuse, que la justice divine a besoin d'être légalisée et autorisée par la justice humaine, et que dans tous les cas possibles, c'est à l'homme à déterminer quand il faut obéir ou non au commandement de Dieu. La loi de Moïse elle-même, faite pour des esclaves et des hommes d'abrutis, ne punissait pas de mort le simple vol. Gardons-nous de penser que sous la loi chrétienne, loi de grâce et de charité, où Dieu commande en père, nous avons le droit d'être plus inhumains et de verser à tout propos le sang de notre frère. Tels sont les motifs qui me persuadent qu'il est injuste d'appliquer aux voleurs la même peine qu'aux meurtriers. Peu de mots vous feront comprendre combien cette pénalité est absurde en elle-même, combien elle est dangereuse pour la sûreté publique. Le scélérat voit qu'il n'a pas moins à craindre en volant qu'en assassinant, alors il tue celui qu'il n'aurait fait que dépouiller. Il le tue dans sa propre sûreté, car il se débarrasse ainsi de son principal dénonciateur et court la chance de mieux cacher son crime. Le bel effet de cette justice implacable, en terrifiant le voleur par l'attente du gibet, elle en fait un assassin. Maintenant, j'arrive à la solution de ce problème tant agité. Quel est le meilleur système pénitentiaire? À mon avis, le meilleur était beaucoup plus facile à trouver que le pire. D'abord, vous connaissez tous la pénalité adoptée par les Romains, ce peuple si avancé dans la science du gouvernement. Ils condamnaient les grands criminels à l'esclavage perpétuel, aux travaux forcés dans les carrières ou dans les mines. Ce mode de répression me paraît concilier la justice avec l'utilité publique. Cependant, pour vous dire là-dessus ma façon de penser, je ne sache rien de comparable à ce que j'ai vu chez les Polylérites, nation dépendante de la Perse. Le pays des Polylérites est assez peuplé, et leurs institutions ne manquent pas de sagesse. À part le tribut annuel qu'ils payent au roi de Perse, ils jouissent de leur liberté et se gouvernent par leurs propres lois. Loin de la mer, entourés de montagnes, ils se contentent des productions d'un sol heureux et fertile. Rarement ils vont chez les autres, rarement les autres viennent chez eux. Fidèles aux principes et aux coutumes de leurs ancêtres, ils ne cherchent point à étendre leurs frontières et n'ont rien à craindre du dehors. Leurs montagnes et le tribut qu'ils payent annuellement au monarque les mettent à l'abri d'une invasion. Ils vivent commodément dans la paix et l'abondance, sans armée et sans noblesse, occupés de leur bonheur et peu soucieux d'une vaine renommée, car leur nom est inconnu au reste de la terre, si ce n'est à leurs voisins. Lorsque chez ce peuple un individu est convaincu de larcin, on lui fait d'abord restituer l'objet volé au propriétaire, et non au prince, comme cela se pratique ailleurs. Les Polylérites estiment en effet que le prince n'a pas plus de droit sur l'objet volé que le voleur lui-même. Si l'objet est dégradé ou perdu, on en prend la valeur sur les biens du coupable, et on laisse le reste à sa femme et à ses enfants. Lui, on le condamne aux travaux publics. Et si le vol n'est pas accompagné de circonstances aggravantes, on ne met le condamné ni au cachot ni au fer. Il travaille le corps libre et sans entrave. Pour forcer le paresseux et les mutins, on emploie les coups préférablement à la chaîne. Ceux qui remplissent bien leurs devoirs ne subissent aucun mauvais traitement. Le soir, on fait l'appel nominal des condamnés et on les enferme dans des cabanons où ils passent la nuit. Du reste, la seule peine qu'ils aient à souffrir, c'est la continuité du travail, car on leur fournit toutes les nécessités de la vie. Comme ils travaillent pour la société, c'est la société qui les entretient. Les coutumes à cet égard varient suivant les localités. Dans certaines provinces, l'on affecte aux condamnés le produit des aumônes et des collectes. Cette ressource, précaire par elle-même, est la plus féconde, en réalité, à cause de l'humanité des habitants. Ailleurs, on destine à cet effet une portion des revenus publics ou bien une imposition particulière et personnelle. Il y a même des contrées où les condamnés ne sont pas attachés aux travaux publics. Tout individu qui a besoin d'ouvriers ou de manœuvres vient les louer sur place pour la journée, moyennant un salaire qui est un peu moindre que celui d'un homme libre. La loi donne au maître le droit de battre les paresseux. De la sorte, les condamnés ne manquent jamais d'ouvrage. Ils gagnent leurs vêtements et leur nourriture et apportent chaque jour quelque chose au trésor. On les reconnaît facilement à la couleur de leur habit, qui est la même pour tous et qui appartient exclusivement à eux seuls. Leur tête n'est pas rasée, excepté un peu au-dessus des oreilles, dont une est mutilée. Leurs amis peuvent leur donner à boire, à manger et un habit de couleur voulue. Mais un cadeau d'argent entraîne la mort de celui qui donne et de celui qui reçoit. Un homme libre ne peut, sous aucun prétexte, recevoir de l'argent d'un esclave. C'est ainsi qu'un homme l'est condamné. L'esclave ne peut toucher des armes. Ces deux derniers crimes sont punis de mort. Chaque province marque ses esclaves d'un signe particulier et distinctif. Le faire disparaître est pour eux un crime capital, ainsi que franchir la frontière et parler avec les esclaves d'une autre province. Le simple projet de fuir n'est pas moins dangereux que la fuite elle-même. Pour avoir trempé dans un pareil complot, l'esclave perd la vie, l'homme libre la liberté. Bien plus, la loi décerne des récompenses aux dénonciateurs. Elle lui accorde de l'argent s'il est libre, la liberté s'il est esclave, l'impunité s'il était complice, afin que le malfaiteur ne trouve pas plus de sûreté à persévérer dans un mauvais dessein qu'à s'en repentir. Telle est la pénalité du vol chez les Polylérites. Il est facile d'y apercevoir une grande humanité jointe à une grande utilité. Si la loi frappe, c'est pour tuer le crime en conservant l'homme. Elle traite le condamné avec tant de douceur et de raison qu'elle le force à devenir honnête et à réparer, pendant le reste de sa vie, tout le mal qu'il a fait faire à la société. Aussi est-il excessivement rare que les condamnés reviennent à leurs anciennes habitudes. Les habitants n'en ont pas la moindre peur, et même ceux d'entre eux qui entreprennent quelques voyages choisissent leur guide parmi ces esclaves qu'ils changent d'une province à l'autre. En effet, qu'y a-t-il à craindre? La loi ôte à l'esclave la possibilité et jusqu'à la pensée du vol. Ses mains sont désarmées. L'argent est pour lui la preuve d'un crime capital. S'il est pris, la mort est toute prête et la fuite impossible. Comment voulez-vous qu'un homme vêtu autrement que les autres puisse cacher sa fuite? Serait-ce en allant tout nu? Mais alors son oreille à demi coupée le trahirait. Il est également impossible que les esclaves puissent ourdir un complot contre l'État. Afin d'assurer à la révolte quelques chances de succès, les meneurs auraient besoin de solliciter et d'entraîner dans leur partie les esclaves de plusieurs provinces. Or, la chose est impraticable. Une conspiration n'est pas facile à des gens qui, sous peine de mort, ne peuvent se réunir, se parler, donner ou rendre un salut. Oseraient-ils même confier leur projet à leurs camarades, qui connaissent le danger du silence et l'immense avantage de la dénonciation? D'un autre côté, tous ont l'espoir, en se montrant soumis et résignés, en donnant par leur bonne conduite des garanties pour l'avenir, de recouvrir un jour la liberté, car il ne se passe pas d'année qu'un grand nombre d'esclaves, devenus excellents sujets, ne soient réhabilités et affranchis. Pourquoi, ajoutai-je alors, n'établirait-on pas en Angleterre une pénalité semblable? Cela vaudrait infiniment mieux que cette justice qui exalte si fort l'enthousiasme de mon savant antagoniste. Un pareil état de choses, répondit celui-ci, ne pourra jamais s'établir en Angleterre sans entraîner la dissolution et la ruine de l'Empire. Puis il secoua la tête, se tordit la lèvre et se tut. Tous les assistants d'applaudir avec transport à cette magnifique sentence, jusqu'au moment où le cardinal fit la réflexion suivante. Nous ne sommes pas prophètes pour savoir, avant l'expérience, si la législation polie les rites convient ou non à notre pays. Toutefois, il me semble qu'après le prononcé de l'arrêt de mort, le prince pourrait ordonner un sursis afin d'essayer ce nouveau système de répression, en abolissant en même temps les privilèges des lieux d'asile. Si l'essai produit de bons résultats, adoptons ce système, sinon que les condamnés soient envoyés au supplice. Cette manière de procéder ne fait que suspendre le cours de la justice et n'offre aucun danger dans l'intervalle. J'irai même plus loin. Je crois qu'il serait très utile de prendre des mesures également douces et sages pour réprimer et détruire le vagabondage. Nous avons entassé loi sur loi contre ce fléau, et le mal est aujourd'hui pire que jamais. À peine le cardinal avait-il cessé de parler, que les louanges les plus exagérées accueillirent les opinions appuyées par son éminence, qui n'avait trouvé que mépris et dédain quand seul je les avais soutenus. L'encens pleuvait particulièrement sur les idées du prélat touchant le vagabondage. Je ne sais s'il ne vaudrait pas mieux supprimer le reste de la conversation. Des choses bien ridicules y furent dites. Néanmoins, je vais vous en faire part. Ces choses n'étaient pas mauvaises, et elles se rattachent à mon sujet. Il y avait à table un de ces parasites qui font honneur et métier de singer le fou. Quant à celui-ci, la ressemblance était si parfaite qu'on la prenait aisément pour la réalité. Ses plaisanteries étaient si insipides et froides que le rire s'adressait plus souvent à la personne qu'à ses bons mots. Cependant, il lui échappait de temps à autre quelques paroles assez raisonnables. Il ne faisait pas mentir le proverbe « À force de lancer les dés, on fait quelquefois le coup de Vénus ». L'un des convives observa que moi j'avais pourvu au sort des voleurs et le cardinal à celui des vagabonds, mais qu'il y avait encore deux classes de malheureux dont la société devait assurer l'existence, parce qu'ils sont incapables de travailler pour vivre, savoir les malades et les vieillards. « Laissez-moi faire, dit le bouffon, j'ai là-dessus un plan superbe. À vous parler franchement, j'ai grande envie de me délivrer du spectacle de ces misérables et de les cloîtrer loin de tous les yeux. Ils me fatiguent avec leurs pleurnicheries, leurs soupirs et leurs supplications lamentables. quoique cette musique lugubre n'ait jamais pu m'arracher un sou. Car il m'arrive toujours de deux choses l'une, ou quand je peux donner, je ne le veux pas, ou quand je le veux, je ne le peux pas. Aussi, à présent, ils sont assez raisonnables. Dès qu'ils me voient passer, ils se taisent pour ne pas perdre leur temps. Ils savent qu'il n'y a pas plus à attendre de moi que d'un prêtre. Voici donc l'arrêt que je porte. Tous les mendiants, vieux et malades, seront distribués et classés comme il suit. Les hommes entreront dans les couvents des bénédictins en qualité de frères laids. Les femmes seront faites religieuses. Tel est mon bon plaisir. Le cardinal sourit à cette saillie, l'approuve comme idée plaisante, et les assistants comme une parole sérieuse et grave. Elle mit surtout en belle humeur un frère théologien qui se trouvait là. Ce révérend frère, déridant un peu sa face sombre et renfrognée, s'égaya avec beaucoup de malice sur le compte des prêtres et des moines. Puis, s'adressant au bouffon, « Vous n'avez pas anéanti la mendicité si vous nous pourvoyez à la subsistance de nous autres frères mendiants. » Monseigneur le cardinal y a parfaitement pourvu, répliqua celui-ci, quand il a dit qu'il fallait enfermer les vagabonds et les faire travailler. Or, les frères mendiants sont les premiers vagabonds du monde. À cette violente sortie, tous les yeux se fixèrent sur le cardinal, qui ne parut pas formalisé. L'épigramme alors fut bruyamment applaudi. Quant au révérend frère, il en demeura pétrifié. Le trait de satire qu'on venait de lui jeter au visage alluma rapidement sa colère, et rouge comme le feu, il se répandit en un torrent d'injures, traita le plaisant de fripon, calomniateur, bavard, enfant de damnation, assaisonnant tout cela des plus foudroyantes menaces de l'Écriture sainte. Alors notre bouffon bouffonna sérieusement, et il avait beau jeu. « Ne nous fâchons pas, très cher frère. Il est écrit, « Dans votre patience, vous posséderez vos âmes. » Le théologien reprit aussitôt, et voici ses propres expressions. « Je ne me fâche pas, coquin. Ou, au moins, je ne pêche pas. Car le psalmiste dit, « Mettez-vous en colère et ne péchez point. » Le cardinal, dans une admonition pleine de douceur, engage le frère à modérer ses transports. « Non, monseigneur, s'écria-t-il, non, je ne puis me taire, je ne le dois pas, c'est un zèle divin qui me transporte, et les hommes de Dieu ont eu de ces saintes colères. D'où il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Ne chante-t-on pas dans les églises, ceux qui se moquaient d'Élisée pendant qu'ils montaient à la maison de Dieu, sentir la colère du chauve ? La même punition frappera peut-être ce moqueur, ce bouffon, ce ribaud. « Sans doute, dit le cardinal, votre intention est bonne, mais il me semble que vous agiriez plus sagement, sinon plus saintement, d'éviter de vous compromettre avec un fou dans une querelle ridicule. Monseigneur, ma conduite ne saurait être plus sage. Salomon, le plus sage des hommes, a dit « Répondez au fou selon sa folie. Eh bien, c'est ce que je fais. Je lui montre l'abîme où il va se précipiter s'il ne prend garde à lui. » Ceux qui riaient d'Élisée étaient en grand nombre, et ils furent tous punis pour s'être moqués d'un seul homme chauve. Quel sera donc le châtiment d'un seul homme qui tourne en ridicule un si grand nombre de frères, parmi lesquels il y a tant de chauves? Mais, ce qui doit surtout le faire trembler, nous avons une bulle du pape qui excommunie ceux qui se moquent de nous. Le cardinal, voyant que cela n'en finirait pas, renvoya d'un signe le bouffon parasite, et tourna prudemment le sujet de la conversation. Bientôt après, il se leva de table pour donner audience à ses vassaux et congédia tous les convives.